Alors, aujourd'hui, on est sur les sacrements des états de vie, le mariage et l'onction des malades. Alors, on peut se demander, d'abord, c'est la première question, pourquoi des sacrements pour les états de vie? Donc ça, c'est une première question. Quel est l'intérêt d'avoir des sacrements pour des états de vie et non pas juste quand on a le baptême ou l'eucharistie, c'est pas lié aux états de vie, c'est vraiment des sacrements qui nous embarquent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis après, pourquoi ces deux états de vie et pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas la consécration religieuse? Pourquoi pas l'onction du roi? Pourquoi pas? J'ai beaucoup moins de réponses sur la deuxième partie, sur la deuxième question que sur la première. Alors, pour répondre à la première, en fait, on voit que le mystère des noces traverse toute la Bible. Depuis la création de l'homme et de la femme, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Donc là, on est vraiment Genèse 1. Jusqu'à la vision des noces, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, où on a un Apocalypse 19. Ce n'est pas tout à fait la fin, mais presque. Et par contre, en Apocalypse 22, on a où l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc là, on a bien le thème aussi des noces. Et puis pour Jésus, on a Cana, qui est quand même le premier signe que Jésus a accompli, où il a manifesté sa gloire. On a le Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, Jérémie, Osée, notamment Osée, et Isaïe. Et puis durant toute la vie de Jésus, finalement, puisqu'on inaugure avec les noces de Cana, mais après, ça continue avec, il a prêché plusieurs fois sur le mariage et l'adultère. Je vous ai mis plein de références. Il compare le royaume de Dieu à des noces. On a trois transpositions du royaume montrées comme des noces. Et puis, de façon plus cruciale, il se présente lui-même comme l'époux. Je vous ai mis les références, mais on le creusera un peu plus longtemps après. Voilà. Et puis, sur le thème de la maladie, pareil, elle traverse aussi tout l'Ancien Testament, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de psaumes qui sont là-dessus, sur le malade qui implore la guérison auprès de Dieu. Il y a aussi dans Exode une mention que le Seigneur est le médecin, donc un rapport de guérison. Et puis, dans la vie publique de Jésus, on voit que Jésus il est rempli de compassion envers la misère humaine et spécialement les malades. Il opère de nombreuses guérisons, puisqu'on a plus de 25 qui sont racontées. Et on imagine que s'il y en a 25 racontées, c'est qu'il y en avait encore bien plus. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment deux centres d'intérêt majeurs du Christ et finalement de toute la Bible. Donc, le Christ en ce sens-là, mais peut-être encore de façon plus importante pour le Christ. Et en fait, ces états de vie... On bénéficie d'un sacrement parce que il nous configure au Christ dans notre humanité, dans la chair même. C'est-à-dire que c'est les deux sacrements qui sont vraiment où la configuration au Christ, elle est portée dans la chair même. Alors évidemment de manière très très différente entre ces deux sacrements, mais il y a une vraie imprégnation, une vraie configuration au Christ. Voilà, et c'est ce qu'on va un peu voir. Alors, le plan, il est très simple. C'est d'abord le sacrement du mariage et ensuite l'onction des malades parce que sinon, on mélange tout. Voilà. Alors, le sacrement du mariage. Donc, le mariage, il est défini comme un contrat. Donc là, on pourrait se dire c'est comme profane. Voilà. Mais qui a été élevé à l'état de sacrement. Et l'encyclique Arcanum Divinae Sapientia affirme que dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être dissocié du sacrement. Le sacrement est la vérité du contrat qu'il effectue, au sens où c'est le sacrement qui rend finalement le contrat opérant, voilà, effectif. Et les mariages naturels, donc hors de l'Église, ne prennent sens que dans cette ordination au sens, en se référant finalement au mariage sacrement. Donc ils ne sont que ils existent parce qu'il y a quelque chose qui disent quelque chose de ce mariage sacrement. Alors, si on remonte à la création, donc là, je vous remets le texte. Selon son dessein dès l'origine, je vous mets un texte de Saint Jean-Paul II, lors d'un Angélus du 6 février. Alors, Saint Jean-Paul II a été celui qui a le plus écrit sur le mariage, sur hommes et femmes, et sur le couple, et donc sur le mariage aussi, mais aussi sur tout ce qui est le corps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le mariage? Et donc, il a écrit « Hommes et femmes, il les créa », qui est son grand livre sur le sujet. Donc là, c'est un texte de l'Angélus, mais bon, qui reprend des idées qu'il y a dans « Hommes et femmes, il les créa ». Et puis sinon, beaucoup ce cours, j'ai beaucoup utilisé deux numéros de résurrection. L'un qui est en ligne, qui s'appelle Hommes et femmes, il les créa. Et vous pouvez le trouver en ligne dans les archives, hein, Revue Résurrection. Et l'autre qui était sur chrétiens divorcés, remariés, qui à mon avis est vraiment très intéressant. Il faut que je demande au Père Giton si on ne peut pas le rééditer. Parce qu'il y a vraiment toutes les dimensions. Il y a la dimension plus théologique qui m'a inspirée pour ce thème. Mais il y a aussi toute la dimension pastorale, qu'est-ce qu'on peut en dire. Et donc dans l'évangélisation, comment on peut porter ça aussi. Donc il est vraiment très intéressant. J'essaierai de vous scanner quelques articles pour vous les passer après, pour que vous ayez des informations, parce que je trouve que c'est vraiment très bien fait et très utile quand on fait de l'évangélisation. Puis même, on connaît tous des gens divorcés, remariés, donc qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà. Alors, donc, ce texte de Jean-Paul II, donc, selon son dessein dès l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. L'Écriture dit, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Il est donc important de comprendre dans les livres de la Genèse cette grande vérité. L'image de lui-même que Dieu a placée dans l'homme passe aussi à travers la complémentarité des sexes. L'homme et la femme qui s'unissent dans le mariage reflètent l'image de Dieu et sont en quelque sorte la révélation de son amour. Non seulement de l'amour que Dieu nourrit pour l'être humain, mais aussi de la mystérieuse communion qui caractérise la vie intime des trois personnes divines. Je vous lis tout le texte et après on creuse un peu différents aspects, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. En outre, on peut considérer comme image de Dieu l'engendrement lui-même qui fait de la famille un sanctuaire de la vie. L'apôtre Paul dit que toute parenté tire son nom de Dieu. C'est lui qui est la source ultime de la vie. On peut donc affirmer que la généalogie de toute personne plonge ses racines dans l'éternel. En engendrant un enfant, les parents agissent comme collaborateurs de Dieu, mission vraiment sublime. Donc il a une très très haute vision de ce que peut être le mariage et la complémentarité homme-femme. Alors il y a un premier sujet qui est la distinction corporelle et sexuelle, qui permet à l'homme et à la femme de prendre conscience de leur spécificité et de leur unité. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, ils sont quelque part incomplets. Voilà, il y a une forme de... C'est dans leur unité qu'ils sont complets, puisque c'est dans leur unité qu'ils sont à l'image de Dieu. Donc c'est leur relation qui les constitue. Et on fera l'analogie un peu plus loin, mais de même que c'est la relation au Christ qui constitue l'Église. C'est parce que le Christ veut l'Église que quelque part il y a cette relation que du coup l'Église existe. Et de la même façon que la relation à Dieu constitue l'homme. C'est-à-dire que l'homme sans Dieu, en fait, n'est pas vraiment, pas complètement homme. Voilà. C'est dans sa relation à Dieu qu'il est vraiment homme. Enfin, homme dans ce sens-là, c'est être humain, on est d'accord. Donc la relation homme-femme témoigne visiblement de l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour qui fait être l'homme, qui fait la création. Donc leur union est donc d'une certaine manière un sacrement. Et là, on n'est même pas dans les sacrements de l'Église, on est sacrement au sens générique du terme. Un sacrement, de même que l'Église est d'une certaine manière le sacrement du salut. Sacrement, je vous rappelle la définition, c'était ce qui comment dire, je ne vais pas retrouver la définition, j'aurais mieux fait de la reprendre. Sacrement dans le sens, c'est qui crée le disposition, enfin ouais, qui crée l'état, qui permet de recevoir le Christ et le salut. Voilà. Donc il y a quelque chose autour de cette dans l'union même, en fait, ils sont comme une certaine façon un sacrement, une visibilité de Dieu. Voilà. Donc Genèse dit, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc la relation qui est évoquée ici dans ce deuxième chapitre est une communion de personnes fondée sur la liberté du don. Donc c'est l'homme qui décide de quitter son père et sa mère, qui s'attache à sa femme, donc il y a un acte de volonté, c'est cette liberté par laquelle il se donne. Et en cela, c'est l'image de la relation trinitaire. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que l'homme et la femme ensemble sont dits à l'image de Dieu. Parce qu'en fait, c'est dans leur différence et dans leur liberté qu'ils abandonnent à l'autre pour être en union, pour se marier, qui reflète en fait les relations d'amour qu'il y a dans la Trinité, où finalement chacun se donne à l'autre, et c'est ça qui fait l'unité en fait. Voilà. Donc quelque part, le mariage, c'est comme une image de la Trinité. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette différence entre l'homme et la femme, donc différence sexuelle et corporelle, du coup, elle fait pas un savoir, l'objet d'un savoir clos qui la maîtriserait. Donc, il s'agit pas de maîtriser. Du coup, on est dépendant de l'autre. Et du coup, d'une révélation qui se donne dans la relation elle-même. Donc, l'homme révèle à la femme et la femme à l'homme. Non, pardon. L'homme révèle à la femme et la femme à l'homme leur commune humanité et leur union en celle-ci. Donc, il y a comme c'est par l'autre que je suis révélateur. Un peu comme dans la photographie où c'est, voilà, négatif et le positif. Alors, négatif, c'est pas la bonne image, mais vous voyez ce que je veux dire. La relation conjugale est aussi relation essentielle de l'humanité et fondement de toute relation humaine. Donc, il y a aussi cette idée de l'homme est un animal social. Voilà, et cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes. Finalement, c'est le début des relations interpersonnelles dans la création. L'homme, de par sa nature profonde, est un être social et sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. Donc, éminemment dans le mariage, qui est la fine pointe quelque part de la relation homme-femme, ou de la relation qui va tout au bout jusqu'à se donner, y compris corporellement, il y a quelque chose de l'accomplissement de la nature profonde de l'homme. La relation homme-femme manifeste à l'origine que l'homme est être de relation et lui rappelle sans cesse son ouverture au Dieu d'amour qu'il a créé. Voilà, et c'est pas, ça se ferme pas, c'est-à-dire que l'homme et la femme, c'est pas une union qui se ferme sur elle-même, qui se clôt, d'abord parce qu'il y a la fécondité, on va le voir un petit peu plus loin. On l'a vu tout à l'heure, voilà, il y a cette ouverture sur la fécondité, d'ailleurs c'est juste la phrase d'après. Et il y a aussi cette ouverture finalement à Dieu, puisque c'est en référence à Dieu. Voilà. Donc la relation conjugale, l'union conjugale est appelée, selon la bénédiction même de Genèse 1:28, « Soyez féconds », etc., à s'ouvrir à la naissance de l'enfant. La connaissance réciproque des époux s'ouvre dans l'avenue d'une troisième personne qu'ils font naître, mais qui n'est pas eux. Et le couple participe par là à la fécondité créatrice de Dieu. Donc ça fait qu'on a l'image de Dieu dans trois façons de faire. D'abord parce qu'il y a, c'est un lien d'amour, et donc c'est bien le lien qu'on a en Dieu, c'est bien le lien qu'il y a dans la Trinité. Il y a une vraie union, c'est-à-dire que la différence, elle souffle sur l'autre et cette dépendance crée l'unité et est puissante. Voilà. Et ça, c'est aussi à l'image de Dieu. Et enfin, il y a l'ouverture sur la fécondité qui est aussi à l'image de Dieu en tant que créateur. Voilà. Donc, c'est à plusieurs niveaux. Alors, on va voir dans une deuxième partie le mariage sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Donc là, la référence, c'est, elle est au début du deuxième paragraphe. À cause de c'est dans Saint Paul, Éphésiens. Donc Éphésiens est très utile pour le thème du mariage. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Donc là, c'est complètement en relation avec Genèse. Et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Voilà. Et donc, ça avait toute cette. C'est Saint Paul qui met en avant ce parallèle entre l'homme et l'union de l'homme et de la femme, et puis l'union du Christ et de l'Église. Voilà. Alors on revient un tout petit peu plus haut sur le mariage qui est un contrat élevé par les chrétiens à l'état de sacrement, chose que j'ai déjà dite par ailleurs, il y a des répétitions, pardon. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Donc le contrat et le sacrement sont indissociables, tout comme les deux natures du Christ. Alors ça, c'était intéressant aussi de se dire que finalement, on avait le pendant entre le contrat qui est éminemment humain et qui est un accord des deux parties, mais qui inclut quand même la liberté. Donc il y a quand même, c'est un contrat librement donné et reçu. Et puis, il y a le parallèle avec le sacrement. Et donc, on a le parallèle entre ces deux natures du Christ, une nature divine et une nature humaine. Voilà. Et donc, le sacrement et le contrat sont comme les deux faces, les deux natures du Christ. Alors pour décrire l'union des époux, saint Paul éclaire la vocation originelle de l'homme et de la femme par le don total que fait le Christ de sa personne à son Église. Donc quand il dit le mystère est grand, il va au-delà de ce que l'homme et la femme, juste de l'homme et de la femme et du mariage, il le dit en référence au Christ et à l'Église, donc c'est bien à ce niveau-là que ça se situe. Le mystère nuptial voulu par Dieu dès les origines préfigure les noces mystiques du Christ et de l'Église qui en constituent la révélation. père de l'Église voit dans les noces une image de l'alliance de Dieu et de son peuple. Donc ça, on l'avait déjà. Dans l'Ancien Testament, on a vraiment le thème de du peuple qui est élevé à la dignité d'épouse. Et on le voit surtout dans... Bon, il y a Osée, Jérémie, Ézéchiel, mais surtout dans Osée. Et puis même dans les derniers chapitres du livre d'Isaïe. On a aussi le psaume 45. Et puis on a évidemment le Cantique des Cantiques, qui lui est complètement un poème nuptial. Dialogue entre l'époux et l'épouse. On ne sait jamais bien qui est l'époux et l'épouse, mais on voit bien qu'il y a quand même une dissymétrie entre l'époux et l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Et finalement, c'est par l'amour du bien-aimé que l'épouse, que la bien-aimée est mise à son niveau, en fait, quelque part. Début du Cantique des Cantiques, je crois que j'en parle un peu plus loin, mais je vous le dis quand même là parce que j'y pense. Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse, est, au début, on la décrit, et elle est dite noire, donc comme si elle était de basse condition. Enfin voilà, il y a cette idée d'inférieur, voilà. Et que petit à petit, en fait, par l'amour du bien-aimé, elle est élevée et mise à son égalité, en fait. Voilà, donc il y a tout ce jeu pendant tout le Cantique des Cantiques. Donc il y a ce thème de l'alliance du Christ et de l'Église, hein, puisque c'est la personnification de ça. Alors, Cantique des Cantiques, il peut aussi se lire juste dans le mariage, hein, enfin, pour deux époux, il a aussi une lecture humaine. Dans les évangiles, le Christ assume le titre d'époux, donc ça on l'a plusieurs fois, et finalement l'épouse n'est pas explicitement identifiée. En fait, il se présente comme l'époux, mais on ne sait pas. Il y a Jean-Baptiste aussi qui le désigne comme l'époux, c'est la référence de Jean 3, voilà, mais on ne sait pas très bien qui l'épouse. Voilà. Et donc c'est saint Paul qui désigne l'Église comme l'épouse, dans 2 Corinthiens et dans Éphésiens 5 à la suite. Voilà, et donc c'est vraiment, c'est saint Paul qui a fait cristalliser en fait cette idée de l'union du Christ et de l'Église, qui dans l'Ancien Testament était plutôt l'union de Dieu et de son peuple. Voilà. Mais là on va un cran plus loin dans l'incarnation et dans l'identification époux-épouse. Et en fait, dans l'Apocalypse, on a la Jérusalem nouvelle qui est comme une fiancée parée pour son époux. Et la Jérusalem nouvelle, on sait que c'est l'église de la fin des temps. Enfin voilà. Donc, qui est comme une fiancée parée pour son époux. Voilà. Donc, c'est l'épouse. Et puis, on a le dernier appel dans l'Apocalypse. L'esprit et l'épouse disent viens. Et là, on a bien une sorte de symétrie entre Dieu et l'épouse. Alors en fait, dans le mariage, on a une double analogie. On a, partant de l'image que constitue le couple humain, en fait, le couple humain nous fait remonter à l'archétype qui est l'union du Christ et de l'Église. Donc c'est une analogie ascendante qu'on ne peut faire que parce que justement l'union de l'homme et de la femme est à l'image de Dieu, comme le dit la Genèse. Donc cette analogie ascendante, on peut la faire. Parce que justement, il y a cette référence dès le début à cette image de Dieu. Et donc, on peut lire le sacrement du mariage, enfin le mariage d'aujourd'hui, enfin, des époux, comme l'union du Christ et de l'Église. Le verset de la lettre aux Éphésiens donc, applique le mystère nuptial au Christ et à l'Église. Il suppose donc une analogie descendante qui fait passer de l'archétype à l'image. Donc là, c'est l'inverse, si on parle des noces mystiques, du Christ et de l'Église, et ça vient éclairer par analogie, on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire pour l'union humaine, noce humaine. L'union de l'époux divin et de son époux sanctifié par lui nous révèle la profondeur du mystère de l'homme et de la femme. Par leur consentement échangé, ils deviennent une image réelle, une icône, au sens, image forte, hein, icône, de l'époux et de l'épouse, du Christ et de l'Église, et de la même façon qu'on dit le Christ est l'icône du Dieu invisible. Donc c'est au sens vraiment fort, c'est pas juste image au sens, c'est le même genre quoi, voilà. Non, c'est une icône, voilà, donc c'est beaucoup plus miroir que ça et beaucoup plus à l'image et à la ressemblance. Donc si les amours de l'épouse et de l'époux sont une image des noces mystiques, cela signifie bien que l'union conjugale renvoie à plus grand qu'elle. Donc la sexualité est l'expression d'une union qui la dépasse, le don réciproque des corps manifeste un don plus total, celui de l'être tout entier. En se donnant l'un à l'autre, les époux manifestent l'union du Christ et de l'Église, comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, la fameuse phrase, les fameuses phrases qui sont souvent citées dans les mariages, pas toujours tout compris, toutes bien comprises. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elles. Voilà. En fait, ce texte, il est toujours interprété comme ça, mais en fait, il y a la réciproque. Voilà, on le verra tout à l'heure, mais c'est complètement symétrique dans le couple. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a perdu la ressemblance du fait de son péché, et le Christ vient restaurer la beauté de sa créature en rétablissant en elle la perfection de l'image de Dieu. Donc, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Là, on est très, très proche de ce que peut dire hein, le Cantique des Cantiques. Voilà, c'est vraiment comment le Christ veut l'église, voilà, et comment on est appelé à être saint et immaculé. L'union conjugale a une dimension eschatologique, puisqu'elle est vécue dans la charité même de Dieu, et elle préfigure finalement les noces éternelles du Christ et de la Jérusalem céleste. Donc on a cette dimension tournée vers l'avenir, tournée vers la fin des temps, et en cela aussi on est à l'image de Dieu. Donc sauvés par la grâce du Christ, l'homme et la femme reconnaissent l'un dans l'autre l'image de Dieu. La découverte par chacun d'une transcendance en l'autre est source d'une communion émerveillée. Donc là on retrouve l'expression de Adam quand Ève, à la sortie de son sommeil, quand Ève est face à lui et qu'il est éperdu d'admiration et perdu de joie aussi. Voilà, donc il a son égal, son alter ego. L'union de l'homme et la femme est découverte d'une altérité. Donc ça, c'est toujours important et c'est ce qui définit aussi, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait cette altérité. Et en Dieu, on l'a aussi. Découvrant l'un à l'autre l'image de Dieu, l'homme et la femme sont conduits l'un par l'autre à un dépassement de soi. Pour rejoindre l'autre, il faut sortir de soi-même comme l'épouse qui sort de sa chambre pour chercher l'époux qui a disparu dans le Cantique des Cantiques. Et donc, il y a toujours dans le mariage cette idée de pas être clos, que ce soit à travers l'enfant, à travers la relation à Dieu, mais aussi d'aller toujours chercher l'autre parce qu'il y a toujours à aller le chercher, oui, dans l'image de Dieu. Enfin, voilà, il y a quelque chose, on est perdu, on est voilé par le péché. Et donc, dans le mariage, il y a toujours cette idée d'aller plus loin et de se dépasser pour retrouver l'autre. C'est donc à partir du mystère de la sexualité humaine et de l'amour vécu comme alliance de deux libertés qu'il nous est donné de comprendre le mystère par excellence. Dieu s'est livré par amour à l'humanité. Dieu a épousé l'humanité pour la sauver et la diviniser. Ce registre de l'amour filial et nuptial, tel que la Bible le déploie, révèle le sens spirituel de la différence sexuelle. Dans le contrat passé entre les fiancés baptisés, qui les fait mari et femme, le Christ est celui qui s'engage au profit de son Église et de ses membres particuliers. Alors ça, c'est intéressant. Je ne vous ai pas beaucoup parlé du sacrement lui-même du mariage, parce que tout le monde assistait à un mariage, donc je me suis dit que ce n'était pas l'intérêt majeur. Voilà. Mais c'est quand même intéressant, puisque de se dire que voilà, ce n'est pas juste le Christ, enfin, ce n'est pas face à l'Église au sens juste témoin, que le consentement a été changé. Mais quelque part, dans ce mariage qui est fait dans l'Église, au sein de l'Église, et ben en fait, il y a le Christ qui s'engage finalement à travers ce couple. Donc on a à la fois la dimension, le Christ et l'épouse de l'Église, qui est dans le couple. L'un est pour l'autre, le Christ et l'Église. Et aussi, il y a en même temps, sur ce couple particulier, le Christ qui s'engage sur cette petite Église en fait domestique. Voilà, et donc il y a vraiment cette double implication. Et le Christ s'engage au profit de son Église et de ses membres particuliers, en l'occurrence le couple. Voilà, donc c'est comme une extension temporelle et locale de l'union du Christ à son Église, qui est réalisée charnellement lors de la Passion pour nous tous, mais qui est plus précisément réalisée dans le couple. C'est le Christ qui nous rend capable de donner plus que ce qu'on a. Et depuis le péché originel, on sait que l'amour est souvent perçu comme dissymétrique, toujours dans... notamment je parlais des divorcés, mais voilà, il y a toujours l'impression qu'il y en a un qui aime plus et l'autre qui en fait pas assez, ou voilà. Et finalement, c'est ce qu'a exactement vécu le Christ sur la croix, hein, où l'amour, son amour est entier et nous, on n'est absolument pas au rendez-vous. Voilà, et du coup, il y a cette dissymétrie qui est là, et donc qui se vit aussi dans le mariage, parce qu'il est dans le régime du péché. Par contre, donc ce que fait le sacrement du mariage, c'est qu'il ne supprime pas la dissymétrie. Mais en fait, il la transfigure et il permet la sanctification. Donc, c'est la sublimation, un peu comme on verra dans l'onction des malades, mais il y a un peu une sublimation de la souffrance et du mal. Voilà. Alors, un point très, très important du mariage, c'est le libre consentement. Donc on n'est pas sur qu'est-ce qu'on entend par libre consentement, et c'est très important puisque c'est ça qui constitue, c'est la matière du sacrement. Donc on ne parle pas juste d'un couple en fait, qui serait la rencontre de deux psychismes qui sont qui une attirance et puis qui voudraient vivre ensemble. Voilà. Le mariage c'est pas ça, enfin c'est pas ça. C'est aussi ça, enfin c'est plus souhaitable quand il y a quand même une attirance aussi de psychisme, mais c'est pas que ça. Voilà, c'est une vraie alliance. Au sens où on fait alliance en fait avec l'autre, de la même façon que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et donc ces deux sujets qui sont librement qui se choisissent librement et qui s'inscrivent dans le temps, en fait, dans une solidité durable. On verra après dans le passage d'après sur la fidélité, qu'est-ce que ça veut dire, et l'indissolubilité. Je vais y arriver. Et donc cette solidité dans le temps, cette alliance durable, en fait, elle implique évidemment combat, dépassement de tout ce qu'on peut imaginer, des traits caricaturaux et superficiels de chaque genre. Donc il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Et donc c'est très exigeant, en fait. Donc le consentement actuel au moment du mariage fait le mariage. Donc c'est ça qui fait le mariage. C'est l'échange de consentement qui fait le contrat et le sacrement, en fait. Voilà. Dans le mariage chrétien, donc, les époux expriment leur consentement devant l'Église. Nul ne se marie sans l'évêque, ce que dit saint Ignace d'Antioche. Donc ça, c'est très tôt. Le mariage devait se faire devant... Bah, à l'époque, c'était souvent tout était devant l'évêque. Enfin, tous les sacrements étaient liés à l'évêque, mais voilà. Donc on a vraiment cette idée. Et c'est le consentement qui est la matière du sacrement. Donc le consentement, il n'a de valeur que s'il est lucide, libre et sans vice. Donc la liberté des consentements, ça suppose l'absence de tromperie. Je me présente tel que je suis et pas tel que je sais pas qui, d'autre. Voilà, il n'y a pas de violence, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément physique, mais psychologique, voilà. Et il n'y a pas non plus l'immaturité qui est aussi un gage de non-liberté, si on n'est pas suffisamment mûr pour réaliser ce qu'on est en train de... du coup, il n'y a pas une vraie liberté, en fait, voilà. Alors du coup, ça vous dit un peu en filigrane les conditions de... Bah, d'abord les empêchements, donc c'est tout ce qui est autour de la consanguinité. Ça a été assez étendu parce qu'à un moment donné, c'était possible entre cousins, et puis après, ça c'est un peu... Voilà, donc les degrés de consanguinité sont évolués dans le temps, mais enfin globalement, l'idée c'est qu'on ne se marie pas si on est trop proche, notamment évidemment frères et sœurs, parents-enfants, etc., bien évidemment. Alors l'ordre, quelqu'un qui est ordonné, bah pareil, il ne peut normalement pas se marier, on est d'accord. Les prêtres orientaux, en fait, ils ne se marient pas après avoir été ordonnés, c'est avant, s'ils sont mariés. Voilà. Donc ça arrive, mais il faudrait qu'ils soient réduits à l'état laïque pour pouvoir se marier. Voilà. Et les vœux solennels, il faut être relevé de ces vœux solennels quand on a fait des vœux de dans un monastère ou autre, pour que le mariage soit valide. Un mariage est nul, donc si, évidemment, s'il a envie de se soustraire à la procréation, qui est un des autres éléments importants, donc il y a la liberté du consentement, mais il y a aussi le fait d'être ouvert à la procréation. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des enfants, voilà, c'est, en tout cas, on ne doit pas empêcher, et ça doit être... Et les cas où le mariage est conclu selon la forme canonique, donc qui est valide, mais non consommé. Si c'est d'un commun accord des deux époux, c'est valide quand même. Voilà. Mais il faut que ce soit, pareil, c'est l'idée de libre consentement. Voilà. Bah, sinon, on aura un problème pour Marie et Joseph. Donc, voilà. Qui ont été légitimement mariés, même s'ils n'ont pas consommé. Le sacrement de mariage possède cette particularité que les fiancés sont les ministres du sacrement, et qu'ils instaurent une bien étrange réciprocité. Alors moi j'aime bien ce thème-là parce que c'est l'égalité homme-femme, c'est très tendance. Voilà, mais vraiment c'est un des rares, c'est très très étonnant de voir que la formule est complètement symétrique. À l'heure du consentement, chacun utilise les mêmes phrases vis-à-vis du mari ou de la femme, et donc chacun à son tour. L'homme est le Christ pour sa femme identifiée à l'Église, mais c'est aussi l'inverse. Au moment de se donner l'un à l'autre, la femme prononce les mêmes paroles qui font d'elle le ministre du Christ pour son époux. Donc il y a vraiment cette idée d'égalité et de réciprocité complète entre les deux époux. Ils sont donc l'un puis l'autre au moment de l'échange des consentements, le Christ qui s'engage et se donne à son Église, représenté par l'autre, puis l'un, etc. Et dans leur état d'époux, ils sont l'un pour l'autre, par analogie, le Christ, le médiateur du salut. mais ils sont aussi l'un pour l'autre, l'Église, la sanctifier. Et donc, on a vraiment l'analogie du Christ et de l'Église qui joue dans les deux sens et qui est réversible dans les deux sens. Voilà. Donc, le mariage n'est jamais une nécessité. Il est le fruit d'un appel et d'un acte de volonté. Voilà. Et à contrario, la beauté du mariage chrétien valorise en contrepoint la virginité pour le royaume. C'est-à-dire que c'est justement parce que le mariage n'est pas juste un état de fait naturel, mais qu'il y a vraiment une vocation, un appel et une vraie liberté dans l'échange du consentement, et c'est pour ça qu'il y a un sacrement, que le choix de la virginité peut être aussi un choix. C'est-à-dire que s'il y a pas, si le mariage était juste une... voilà, tout le monde se marie parce que c'est normal et tout le monde doit être marié, bah, en fait, la virginité n'aurait aucun sens. Donc c'est parce que le mariage est une vocation et un vrai, une vraie liberté donnée qu'en parallèle, on peut aussi avoir une vocation et un choix de la virginité pour le royaume. Ça trempe les plaques. Tu gardes ta question et puis on l'aura tout à l'heure. Alors, le gros sujet de l'indissolubilité du mariage, signe de la fidélité de Dieu. Donc, la réponse est dans le titre. Dieu est fidèle et la fidélité de Dieu, c'est sa vérité. Dieu s'est engagé envers nous totalement, radicalement, en nous créant à son image et à sa ressemblance, en nous voulant fils, par et dans le fils. Cette alliance qui existe dès l'origine se réalise pleinement par la venue du Christ, puisque c'est bien parce qu'on a rompu l'alliance que le Christ est venu. Dieu est celui qui propose l'alliance et celui qui prend l'engagement le plus fort au bénéfice de l'homme, puisqu'il ne demande rien en échange en fait. Donc nous on passe notre temps à bafouer l'alliance, que ce soit le peuple juif, mais nous aussi dans l'Église et chacun d'entre nous dans le, par le péché. On bafoue continuellement l'alliance, mais sans cesse Dieu maintient son alliance et la renouvelle, car rejette-t-on l'amour de sa jeunesse, comme dit Isaïe 54. Donc on est bien dans une relation d'amour, d'une alliance entre un époux et son épouse qui ne peut être rompue par l'infidélité de l'épouse. Alors je vous invite à relire le livre d'Osée qui est quand même magnifique sur le mariage. Donc Osée épouse une femme qui, comme Israël à l'égard de son Dieu, se prostitue. Donc le thème de la prostitution et l'infidélité à Dieu, c'est le même, c'est l'image de ça. Et donc Osée a donc une femme qui se prostitue et qui est infidèle. Et donc il la met à l'épreuve et la restaure finalement dans la joie de l'amour fidèle. Donc il va la chercher. Il continue à l'aimer, il la restaure, il sauve sa femme perdue, engoncée dans le péché, sans aucune contrepartie exigée. Voilà, c'est exactement le même parallèle avec Dieu qui agit. C'est lui qui séduit son épouse, la détourne de la perdition et la conduit au désert pour parler à son cœur, afin de se fiancer à elle pour toujours, dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde, dans la fidélité. Le livre d'Osée montre ainsi la fidélité et la dissymétrie de l'amour de Dieu pour son peuple. Donc on a d'un côté le fidèle et de l'autre côté l'infidèle. Dieu est un époux qui recherche ardemment son épouse disparue. C'est Dieu lui-même qui vient prendre sur lui le poids de l'infidélité, qui vient tenir à la place de l'humanité la promesse faite d'aimer Dieu à jamais. Et c'est au fond du cœur de Jésus que se joue le salut du monde, dans la dissymétrie entre cette fidélité et cet amour humain marqué par le péché et l'amour total qui sauve à jamais. Donc on a cette dissymétrie qui est comblée parce que le Christ vient, vient la porter de notre côté en fait. Voilà. Et donc il vient combler l'écart parce qu'il se met de notre côté et c'est lui qui porte. Voilà, et c'est sa phrase sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'union de l'homme et de la femme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le mariage est établi comme imitation des mœurs divines. Je pense qu'on dirait tout ça à des jeunes fiancés qui se préparent au mariage. Je ne sais pas si ça leur ferait pas un peu peur. Cette autre haute configuration de ce qu'est le mariage, mais en même temps c'est Dieu lui-même qui vient aider à le tenir quoi. Donc on n'est pas tout seul dans le mariage, mais en tout cas c'est quand même une vision très 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 élevée de ce qu'est le mariage. Donc l'union est destinée à l'indissolubilité et à la fidélité, tout comme Dieu est fidèle à son peuple. Voilà, il n'y a pas de repentance. Remonter à l'origine pour tenter de comprendre, c'est le mouvement même que suggère Jésus. Lorsqu'interrogé par les pharisiens sur la possibilité qu'offre la loi de Moïse de répudier sa femme, il leur répond « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et de nouveau, mais à l'origine, il n'en fut pas ainsi. » Voilà. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc bien plus, l'indissolubilité, c'est vraiment un mot compliqué, du mariage entre deux baptisés tire son unité de Dieu même en tant qu'il s'est engagé en faveur des époux. Donc là, on revient sur le thème. C'est pas seulement, il n'est pas juste auprès de nous comme un baptisé, comme n'importe quel baptisé, pour nous aider à tenir avec l'Esprit Saint et à le suivre, mais il est même engagé encore plus précisément et encore plus personnellement. Voilà. Le Christ assume une parole humaine et en fait, avec l'accord des fiancés, pour leur bonheur et leur félicité éternelle, une parole divine. Leur engagement ne leur appartient plus. Il a été ravi par Dieu et ravi par là même les époux. Un don est fait aux époux, celui de représenter au sens fort du terme, d'être l'expression visible, de réaliser ici et maintenant, au profit de tous les baptisés du monde, l'immense amour qui unit le Christ et son Église. Dans cette union acquise au prix du sang de l'agneau immolé, rien ne saurait séparer le bien-aimé de sa bien-aimée. Le mariage est lié à l'engagement de Dieu en faveur de son peuple et qui ne peut être rompu, car les dons de Dieu sont sans repentance. L'indissolubilité du sacrement témoigne et réalise la fidélité éternelle de Dieu. Donc si on dit que le sacrement de mariage conforme les époux au Christ et à l'Église, et donc des deux côtés, hein, et les rend capables de la fidélité du Christ, alors on peut affirmer que l'un peut, par son amour total, par son oblation radicale à l'image du Christ, sauver son conjoint et contribuer de manière unique à sa conversion. Et finalement, c'est là tout l'enjeu de la fidélité d'un époux délaissé. Depuis le péché originel, l'amour est marqué par le sacrifice. Et le Christ, plus que tout autre, le sait pour l'avoir vécu. L'époux délaissé fait face à l'absurdité de la fidélité, à son illogisme, de même que Dieu fait l'expérience de l'absurdité du péché de sa créature. Et donc la croix du Christ, c'est la seule attitude possible face à cette situation de rupture d'amour. Comme le Christ regardant Saint-Pierre sans jugement, avec une infinie tristesse et un immense amour bafoué, les époux abandonnés peuvent eux aussi accueillir leur époux déficient. Cette oblation qui est efficace pour le conjoint défaillant, l'est aussi pour l'Église, par la communion des saints. Par ses souffrances, l'époux fidèle achève en sa chair, au sens physique du terme, car il a été déchiré par la rupture de l'unité. Tous deux ne feront plus qu'un, ce qui manque à la passion du Christ au profit du corps. Ce n'est pas un petit paragraphe de moi, c'est un petit paragraphe de Paul Hériot dans le fameux passage de la revue Résurrection. Et je trouve qu'il est vraiment... il dit comment est-ce que on peut penser l'indissolubilité comme la fidélité de Dieu, et donc finalement c'est un engagement qu'on ne peut même plus reprendre, parce qu'il est en Dieu et que Dieu s'est engagé aux côtés des époux, donc du coup il est non reprenable en fait, il est non éteignable, mais en fait on peut, en étant délaissé ou séparé, eh ben, on peut offrir ça en matière de salut pour son conjoint, plus directement, parce qu'on est quelque part le Christ médiateur pour son conjoint, puisque dans la relation du mariage, on est le Christ et l'Église. Donc on peut être le Christ aussi pour son conjoint qui n'est pas au rendez-vous. On peut aussi vraiment offrir ça. Et c'est pour ça que c'est... On verra aussi pour l'onction des malades, mais voilà, c'est une vraie configuration au Christ, et là, à la croix du Christ, dans la chair, quoi. À la fois dans la chair quand c'est heureux, tous deux ne feront plus qu'un, et ça, c'est une configuration au Christ qui se donne à son Église, et aussi dans la souffrance quand ça se passe mal, en offrant cette rupture de l'unité. Je trouve que ce sens physique du terme, on a été déchiré, puisque tous deux ne feront plus qu'un, et que la séparation déchire en fait le couple. Donc c'était pour le sacrement du mariage. Puis maintenant, on passe à l'onction des malades. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Alors, c'est beaucoup plus rapide sur l'onction des malades. Vraiment, Jésus s'est penché sur la misère humaine et spécialement sur la maladie. Donc, on a nombre de récits de guérison de pathologies diverses. On a cécité, la lèpre, la paralysie, les pertes de sang, enfin, je vous en passe et d'autres. Parfois, en forme d'exorcisme, ces rétablissements tiennent une place importante dans le ministère du Christ. Pour présenter Jésus-Christ, Matthieu nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Donc ça fait partie de son être même et de sa mission, en fait, quelque part, prêchant et guérissant. Voilà, c'est simple. Les guérisons sont donc des actes essentiels de la figure de Jésus qui nous disent quelque chose de son être même. La méditation des évangiles nous montre la profonde compassion du Christ pour les personnes fragiles qu'il rencontrait. C'est aussi Jésus qui est pour les pauvres, les blessés, et donc les malades en font partie. Et finalement, donc cette immense miséricorde envers toute fragilité, et donc pour chacun d'entre nous, puisque quelque part on a aussi à être guéri du péché, mais on a tous au moins eu aussi des maladies, donc c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Jésus accomplit les guérisons sans les rechercher pour elle-même. Donc chaque fois, c'est souvent on peut relire tous les passages de guérison, mais la plupart du temps, c'est très rare que ce soit lui qui prenne les devants. En général, c'est il y a un cri, il y a une détresse humaine, il y a quelqu'un qui lui barre la route, qui lui dit prends pitié. Il y a le paralytique où ils défont tout le toit là pour passer. Enfin voilà, il y a un vrai cri de l'homme et que Jésus se montre compatissant et vient. Ça montre sa puissance, mais ça montre surtout l'attention de Jésus envers chacun d'entre nous et chaque personne vraiment individuelle et puis surtout les plus éprouvés. Voilà. Donc sa compassion envers tous ceux qui souffrent va si loin qu'il s'identifie avec eux. Et dans la parabole du jugement dernier, voilà, j'ai été malade et vous m'avez visité. Donc il s'identifie au malade, donc il prend ça sur lui. Voilà. Donc si Jésus guérit et libère, c'est bien parce que son cœur déborde d'amour qui nous révèle de quel amour le Père nous aime. Donc la bonne nouvelle concerne la personne dans toutes ses dimensions. Jésus a non seulement le pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés, parce qu'il est venu pour guérir l'homme tout entier, âme et corps. Déjà dans l'Ancien Testament, Israël fait l'expérience que la maladie est d'une façon mystérieuse liée au péché et au mal, et que la fidélité à Dieu rend la vie. Car c'est moi qui suis ton médecin. Jésus est le médecin dont les malades ont besoin. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. On nous dit ça au banquet avec Lévi. Pourtant, Jésus n'a pas guéri tout le monde physiquement. Il n'a pas résolu tous les problèmes de ceux qui se sont tournés vers lui, mais il les a toujours accueillis avec bienveillance. C'est important de voir que la maladie, enfin que vraiment il y a cette unité de l'être, et donc du coup de notre être. Et donc du coup, on est tout entier, le corps, l'âme, l'esprit, le cœur. Et donc c'est pas juste un guérisseur qui va toucher juste pour guérir au sens vraiment juste guérison du terme, mais que ça englobe et ça va au-delà. Et on verra ça dans le sacrement. Donc si on est malade, où justement il y a cette idée de guérison bien plus totale de l'être et pas seulement de la maladie elle-même au sens strict. Voilà. Et puis Jésus se sert souvent de signes pour guérir. Il y a la salive et l'imposition des mains. Il y a la boue et les ablutions. Il y a parfois c'est juste toucher ou se laisser toucher parce qu'il y a aussi la femme qui touche son manteau et tous les malades qui touchaient son manteau. Voilà. Et dans le sacrement, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. Sacrement, c'est toujours une rencontre aussi dans notre corporéité, dans notre corps. Et donc il y a un toucher, voilà, de Dieu. Après, il y a un deuxième point très important, c'est que Jésus envoie ses disciples faire ce qu'il a fait. Donc exactement la même chose, annoncer l'évangile et guérir. Donc c'est la même mission que Jésus. On est sur la même chose. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Alors là, un cran plus loin, purifier les lépreux, expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc en fait, la résurrection de Jésus-Christ, elle redéfinit les guérisons pour qu'elles accompagnent l'annonce du salut. Donc c'est en lien avec l'annonce du salut, c'est en lien avec finalement la sanctification. Les guérisons nous invitent à la conversion du cœur et à l'accueil du royaume qu'il inaugure, un règne d'amour et de justice. La parole des apôtres est puissante, de la puissance même que donne l'Esprit-Saint. Ils accompliront des guérisons non à leur nom propre, mais au nom de Jésus, attestant qu'il est ressuscité et que par son esprit, il accompagne son Église. Le Christ invite ses disciples aussi à le suivre en prenant à leur tour leur croix. En le suivant, ils acquièrent un nouveau regard sur la maladie et sur les malades. Jésus les associe finalement à sa vie pauvre et servante. Il les fait participer à son ministère de compassion et de guérison. Ils s'en allèrent prêcher qu'on se repentit et chassait beaucoup de démons et faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Le Seigneur ressuscité renouvelle cet envoi, donc après la résurrection, par mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et il confirme ensuite par les signes que l'Église accomplit en invoquant son nom. On voit des scènes de guérison dans les actes, où notamment Saint-Pierre à la belle porte, qui voilà, au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi. Ces signes manifestent d'une manière spéciale que Jésus est vraiment Dieu qui sauve. Cette mission de guérison, l'Église l'a pris très à cœur et n'a cessé d'œuvrer pour soulager ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Prière d'intercession, œuvre charitable et évidemment le sacrement. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas juste dit il y a un sacrement, donc finalement c'est cantonné à ça. Non, elle a pris en compte toute la guérison, tout le problème de la souffrance dans toutes ses dimensions, et on sait bien avec les hôpitaux, les orphelinats, tout ce qu'il y a eu sur l'accompagnement des malades. Donc, et le sacrement finalement c'est la fine pointe de la plus ultime, ou chapeau on peut dire, de cette mission de guérison qu'a l'Église. Alors le sacrement, il est spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie, c'est donc ce sacrement de l'onction des malades. Il a été institué par le Christ notre Seigneur comme un sacrement du Nouveau Testament véritablement et proprement dit institué par Marc. Donc ça, c'est la référence de Marc sur le que je vous ai lu un tout petit peu au-dessus. Par mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Non, c'est celle du dessus. Enfin oui, ça peut être celle du dessus aussi. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà, Marc 6, c'est un peu au-dessus. Mais recommandé aussi aux fidèles et promulgué par Jacques. Jacques est encore plus précis et c'est de lui qu'on peut tirer le déroulé du sacrement finalement de l'onction des malades. Ils expulsaient, la lettre de Saint-Jacques, voilà, l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens, donc les anciens dans le terminologie de Jacques, c'est les prêtres, en fonction dans l'église, ils prieront sur lui, le Seigneur, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Donc on a la prière, l'église qui est impliquée, donc c'est le prêtre qui fait, il y a une prière, il y a une onction d'huile au nom du Seigneur, donc on sait bien toujours au nom du Christ, et cette prière, inspirée par la foi, donc sauvera le malade, si besoin est, voilà. Le sacre l'onction des malades, c'est pas un coup de baguette magique et donc on est forcément guéri, mais il se passe quelque chose. Voilà, il y a une transformation qui, à minima intérieur et à minima sur le pardon. Donc la célébration actuelle du sacrement, elle comprend l'imposition des mains, la prière sur les malades dans la foi de l'Église et l'onction avec l'huile bénite. L'huile pénètre en douceur et irrigue notre être. C'est toujours le symbole de de l'Esprit Saint qui pénètre tout le corps. Et c'est une huile spécifique, hein. C'est pas la même que la confirmation et c'est pas la même que l'ordination, puisqu'on a trois huiles qui sont bénies par à Pâques, au jeudi saint, pardon. Elle est aussi la bonne odeur, donc il y a aussi cette idée d'être en bonne odeur. L'onction des malades, alors c'est qu'elle est souvent, on va voir après sur la préparation au passage, et donc il y a le sacrifice de bonne odeur avant de rejoindre le Seigneur. Voilà, on se met en bonne odeur. Voilà. Donc le sacrement a pour but d'abord la guérison de l'âme et quand c'est utile, la guérison du corps. Voilà. Donc on n'est jamais dans le baguette magique. L'onction des malades est aussi une préparation au dernier passage. Finalement, elle parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne. Donc on a eu celle du baptême qui avait scellé en nous la vie nouvelle, celle de la confirmation qui nous avait fortifiés pour le combat de cette vie. Et cette dernière onction est celle qui nous munit d'un solide rempart en vue des dernières luttes avant d'entrer dans la maison du Père. Alors, je ne parle pas évidemment de l'onction pour les prêtres, on le verra la fois prochaine, mais ça concerne une partie de la population et pas tout le monde, alors que finalement, l'onction des malades, ça concerne tout le monde. Potentiellement. Saint Albert le Grand enseigne que pour les mourants, la pénitence rétablit la justice. Donc, c'est vrai que. Et l'onction met fin à l'état d'affaiblissement, purification du corps et de l'âme. Donc, l'onction des malades achève tout leur sacramentel, toute la vie est mise en forme pour le passage. Les trois derniers sacrements, finalement, de notre vie, si on arrive à tout faire avec la configuration s'y prête, ce n'est pas toujours le cas, c'est la pénitence, on se confesse, l'onction des malades, et puis l'Eucharistie comme viatique, donc la dernière fois qu'on communiera à l'Eucharistie. Et ça, c'est un peu ce qui nous prépare au passage. Donc l'onction des malades, c'est vraiment le parachèvement et comme un peu le contrepoint du baptême. L'onction des malades est tout particulièrement liée à la rédemption car elle donne aux malades la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. La souffrance a un sens nouveau, elle peut désormais nous configurer au Christ. L'onction des malades est comme une sorte d'ordination dans le saint état de maladie. C'est en ça que c'est un sacrement. Pourquoi il y a ces sacrements des états de vie et pourquoi celui-là? C'est parce que justement il y a cette configuration jusque dans notre chair au Christ qui a souffert sur la croix. Avant et sur la croix. Et donc le malade, dans sa maladie, peut offrir ça. Et donc quelque part, contribue ou parachève l'action du Christ. Donc c'est une vraie coopération à l'œuvre du Christ si c'est offert. Voilà. Et le sacrement des malades, l'onction des malades, c'est justement cette force que nous donne le Christ de vivre cette souffrance et cette maladie comme le Christ. Voilà. Et pouvoir l'offrir comme lui sur la croix. Donc ces deux sacrements ont vraiment cette caractéristique qu'ils nous font coopérer à l'œuvre rédemptrice du Christ et coopérer au sens très fort dans notre chair. Donc dans le mariage, les époux sont l'un pour l'autre le Christ rédempteur. Le sacrement de mariage sauve l'amour humain. Autant le mariage est ancré dans la réalité juridique, économique, sociale et donc dans tout le temporel, autant le sacrement fait que ces réalités humaines, donc ce qui existe quand même, hein, il y a une vraie réalité juridique, économique, sociale et très temporelle, fait que ces réalités humaines sont vécues chrétiennement dans la charité, dans la communion. Et donc le sacrement fait naître l'église domestique que le Christ vient épouser. Donc il y a une vraie incarnation, coopération et configuration au Christ dans le sacrement du mariage. Et le malade, par la grâce du sacrement, contribue à la sanctification de l'Église et au bien de tous les hommes pour lesquels l'Église souffre et s'offre par le Christ à Dieu le Père. En s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, ils apportent leur part pour le bien du peuple de Dieu. Amen, gentium. Voilà pourquoi on a ces deux sacrements qui sont mis à l'honneur.